Bonjour à tous. 70 ans de règne et un lien indéfectible avec les Britanniques. La reine Elisabeth II célèbre aujourd'hui son jubilé de platine. Dans un message hier soir, la reine Elisabeth a souhaité que Camilla devienne reine consort. Nous serons à Londres dans un instant. Invitée de ce journal, une spécialiste de la monarchie britannique, Isabelle Rivière. La politique, ce dimanche, à gauche, Anne Hidalgo se rend à Lille. Fabien Roussel tiendra son premier meeting national à Marseille. Et concernant la candidature d'Emmanuel Macron, Aurore Berger se réjouit des sondages, mais pour l'instant, le président est président. Dans ce journal également, le cyclone Batsirai a touché Madagascar et causé d'immenses dégâts. La crise en Ukraine et l'alerte du renseignement américain sur une invasion de la Russie. Et puis en rugby, la France se lance cet après-midi dans le tournoi des 6 nations face à l'Italie. La météo, une perturbation au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Mais on va d'abord aller à Pékin, aux Jeux Olympiques, avec en ce moment la finale de ski de bosse femme, avec deux Françaises, Camille Cabrol et Perrine Laffont, 23 ans, championne olympique en titre, et qui va s'apprêter ou qui s'apprête à disputer sa première manche. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Frédéric.
Alors c'est une trentaine de secondes cette épreuve, cette première manche, avec des sauts pour entrer dans l'histoire pour Perrine.
Oui, exactement. Alors, on n'est pas encore passé dans cette première manche de la finale. Perrine Laffont qui va s'élancer en 19e position, avant-dernière position, tout simplement parce qu'elle a fini deuxième des qualifications jeudi dernier sur cette même piste ici à Zhangjiakou. C'est la première manche de cette finale parce qu'il y en aura trois. Elles sont 20 au départ. Il faut se classer dans les 12 meilleurs pour accéder à la deuxième manche. Et là, ce seront seulement les 6 meilleurs qui disputeront la super finale tout à l'heure dans une petite heure maintenant, ici toujours sur cette piste de bosse. Perrine Laffont, qui, vous le savez, peut en effet entrer dans l'histoire, devenir la 13e sportive française aux Jeux d'hiver à conserver son titre, à être deux fois médaillée olympique. Le chemin est encore long parce que la concurrence est rude cette année pour Perrine Laffont, notamment avec l'Australienne Jacara Anthony, qui a fait la meilleure qualification jeudi et qui sera sans doute, sans aucun doute, la principale rivale de Perrine Laffont sur cette piste. Mais on croise les doigts, tout est réuni pour que Perrine Laffont écrive l'histoire un peu plus.
Merci Jérôme Val en direct de Pékin. Puis en ski alpin, la descente homme a finalement été repoussée à cause du vent. Elle aura lieu normalement demain dans la nuit à 5h, heure de Paris. Venons-en maintenant à l'événement qui fait la une de la presse britannique parce qu'il est historique et parce que le lien est indéfectible avec les Britanniques. La reine Elisabeth II célèbre aujourd'hui ses 70 ans de règne et dans un message hier, à l'occasion de son jubilé de platine, la reine Elisabeth II, 95 ans, a fait part de son souhait sincère que Camilla soit connue comme reine consort lorsque le prince Charles, 73 ans, accédera au trône. Et la presse anglaise ce matin salue la reine Camilla et la reine Elisabeth II. Sur place à Londres, Emeline Vin.
Joyeux jubilé, madame, s'exclame le Daily Express, qui en une montre une Elisabeth II tout sourire, caressant l'un de ses iconiques chiens d'orgie. L'Express, mais aussi plusieurs journaux du dimanche, reviennent dans un supplément spécial aux couleurs pourpres de la monarchie sur les 70 ans de règne de la souveraine, photo à l'appui. Dans la même veine, le site web de la chaîne de télévision Sky News propose à ses lecteurs un petit module pour savoir ce que faisait la reine le jour de votre naissance. La presse regarde donc le passé de la monarchie, mais elle s'intéresse aussi à son futur. Deux mots reviennent sur les unes. Queen Camilla, la reine Camilla. Les tabloïds Sunday Mirror, Sunday People et Le Mail racontent comment la reine a mis fin à des années de spéculation hier dans un communiqué. À son décès, Elisabeth II souhaite que la femme de son fils aîné Charles devienne reine consort, comme toutes les épouses de souverains, et non princesse, comme cela avait toujours été attendu. Londres, Emeline Vin, France Inter.
Invitée de ce journal, Isabelle Rivière, journaliste spécialiste de la monarchie britannique. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la monarchie et la reine Elisabeth II, et notamment le livre « Charles et Camilla, une histoire anglaise » chez Fayard. Bonjour Isabelle Rivière.
Bonjour.
Alors hier soir, la reine a publié un message à la Nation, mais également des photos d'elle, habillée en bleu. C'est vrai que les Anglais s'inquiètent beaucoup pour son état de santé. Que sait-on sur l'état de santé de la reine, 95 ans ?
Je crois que les images d'hier étaient d'abord des images qui étaient faites pour rassurer. On a vu, jusqu'ici, on voyait beaucoup la reine en photo, assise, et là, on l'a vue debout, marchant. Alors, c'est vrai que maintenant, elle cède d'une canne, mais je dirais que l'essentiel est là, cette énergie, ce sourire, cette étincelle dans le regard. On sent bien que c'est toujours quelqu'un qui est fermement aux commandes.
Alors, son souhait de voir Camilla reine consort, c'est une surprise.
Alors, ce qui est une surprise déjà, c'est ce message d'hier soir, puisqu'il n'avait pas du tout été annoncé par le palais. Ce que traduit ce message, c'est la volonté très claire de la part d'Elisabeth II de régler les choses de son vivant. La pérennité de la couronne repose sur des accessions sans heurts et elle fait tout pour que le jour venu, bien, l'avènement de son fils se passe bien. Et l'une des questions qui restait à régler concernant cette accession au trône du prince Charles, c'était le titre qu'allait porter Camilla. Au moment de leur mariage en 2005, pour apaiser les esprits, Clarence House, le quartier général du prince Charles, avait écrit que, eh bien, lors de l'avènement du prince, Camilla prendrait le titre de princesse consort. Ce qui, depuis, c'est vrai, ne lassait pas d'exaspérer un peu les spécialistes, hein, de l'institution monarchique, puisque techniquement, lorsque le prince Charles deviendra roi, de toute façon, Camilla allait devenir reine. Mais il fallait quand même, je pense, pour que l'ensemble de l'opinion britannique adhère au fait que Camilla devienne reine, il fallait qu'Elisabeth II intervienne et
ça a été fait hier soir.
Clôture le débat pour de bon.
Ouais. Que signifie ce titre concrètement de reine consort, Isabelle Rivière?
D'abord, c'est un titre qu'elle mérite. Moi, je voudrais vraiment revenir là-dessus pour l'avoir suivie pendant plusieurs mois et avoir encore récemment parlé à des membres de son entourage. Camilla n'est pas... Camilla, ce n'est pas une femme d'ambition, ce n'est pas une femme de pouvoir, c'est même tout le contraire. C'est quelqu'un qui se considère d'abord comme la femme de son mari, quelqu'un qui est là pour le soutenir dans son travail. Le prince Charles, c'est un homme exigeant, très actif, qui souffre aussi un peu assez difficilement de la contradiction. Avec elle, c'est un homme qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus confiant en lui-même, en son avenir. Et c'est là vraiment... Je pense fondamentalement que ce titre de reine que souhaite pour elle Elisabeth II est un titre qui vient en récompense du rôle, de la place qu'elle occupe aujourd'hui et depuis déjà fort longtemps en fait, dans la vie d'héritier du trône.
Alors la reine Elisabeth II a apprécié Camilla, mais elle n'est toujours pas très très populaire auprès des Anglais.
Ça s'arrange doucement, mais ça s'arrange. La popularité de Camilla, comme celle de son époux d'ailleurs, est en hausse notable ces dernières années. C'est dû à ses qualités personnelles. C'est une femme avec qui j'ai déjà parlé. C'est une femme extrêmement chaleureuse, extrêmement bienveillante. On sent que l'écoute est chez elle une composante, hein, avec une composante du métier. Disons qu'avec elle, les échanges sont vrais. Et puis ces dernières années, elle a pris le flambeau de nombreuses causes qui jusqu'ici avaient été un peu délaissées, comme celle de la lutte contre le viol, les violences sexuelles, les violences conjugales au Royaume-Uni. Personne ne l'avait fait avant elle et je suis absolument persuadée que ce travail qu'elle accomplit, ce travail très, très efficace, un vrai travail de terrain, a beaucoup contribué à sa popularité.
Pour ce qui concerne William et Harry, ça doit être sans doute plus difficile.
Alors, difficile, je ne sais pas. Camilla a eu l'intelligence de ne jamais chercher à s'imposer dans l'existence des princes William et Harry. Les choses se sont faites à leur rythme. Il est aussi probable que, avant de publier son message hier soir, la reine a consulté son fils aîné, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, pour s'assurer que les termes ne conviendraient à tout le monde. Quant au prince Harry... chez qui on sait que le souvenir de sa mère, Diana, est encore très, très présent, très douloureux, et bien s'il souhaite s'exprimer sur le sujet, je suis persuadée qu'il le fera dans les jours qui viennent.
Alors Isabelle Rivière, 2021 a aussi été une annus horribilis pour la reine et Elisabeth II, et pourtant Elisabeth II, 95 ans, 70 ans de règne, ça reste en quelque sorte la grand-mère des Britanniques et peut-être aussi un peu du monde entier. On est habitué à la voir, à vivre avec la reine d'Angleterre, Elisabeth II. C'est une reine à qui on ne peut rien reprocher au bout de 70
non.
ans.
Elisabeth II, c'est la reine plus que parfaite, dont le règne a souvent été chahuté par des histoires de famille. Mais c'est aussi un règne qui a prouvé que... aussi un règne qui a su dépasser justement toutes les turbulences qui ont affecté la vie familiale, la vie quotidienne des Windsor. C'est un règne sur lequel il est difficile en fait de mettre des mots, puisqu'en 70 ans, il a su transcender, traverser des périodes très diverses, sur tous les plans, culturels, technologiques, scientifiques, médiatiques. Et l'intelligence, alors on dit que c'est une reine apolitique, bien sûr, elle n'a pas d'opinion, en tout cas elle est priée de ne jamais les exprimer.
Oui, en deux
mots,
Isabelle
Rivière, femme qui a une forme de génie politique et qui a su faire en sorte que l'institution monarchique reste constamment en phase avec les attentes et les préoccupations de ses compatriotes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils lui sont si reconnaissants aujourd'hui. Ils lui sont reconnaissants d'avoir toujours été là pour eux et reconnaissants de n'avoir jamais manqué au serment, à la promesse qu'elle leur a faite le jour de ses 21 ans, de leur vouer sa vie pour toujours. Et je voudrais juste dire un dernier mot sur l'un des messages très importants qui était contenu dans le texte publié hier soir. C'est un message qui met un terme définitif à toutes les rumeurs qui couraient encore sur une possible abdication de la reine en raison de son grand âge. Eh bien, elle renouvelle hier soir le serment du cap le jour de ses 21 ans. C'est une démarche, c'est vraiment un coup de maître en fait, ce message d'hier soir.
Isabelle Rivière, merci beaucoup, spécialiste de la monarchie britannique. Merci à vous. Et puis pour tester vos connaissances sur la reine d'Angleterre et ses 70 ans de règne, vous pourrez retrouver sur franceinter.fr, sur notre site, le quiz Elisabeth. La politique ce dimanche et après les duels par meeting interposés à l'extrême droite hier, l'affiche aujourd'hui est à gauche. Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, se rend à Lille où elle sera reçue par la maire Martine Aubry avant d'assister cet après-midi au match de football Lille-PSG. Fabien Roussel, de son côté pour le Parti Communiste, donnera son premier meeting national à Marseille cet après-midi également, où il défendra son programme pour la France des jours heureux. Et puis concernant la candidature d'Emmanuel Macron, Aurore Berger, présidente du groupe LREM, présidente délégué du groupe LREM à l'Assemblée, s'est réjoui de voir que les sondages placent Emmanuel Macron en tête, mais que pour l'instant, il n'est pas candidat. Aurore Berger sur France Info.
Ce que je concède, c'est qu'il est quand même stable et haut, systématiquement donné évidemment au second tour et gagnant du second tour, quelle qu'en soit la configuration. Ce qui compte, c'est de pouvoir ensuite faire campagne, mener campagne sur les projets qui seront les nôtres. On se réunit d'ailleurs cet après-midi à Aubervilliers avec l'ensemble des forces de la majorité présidentielle, les patrons des différents partis de cette majorité qui vont se réunir. Et il me semble que la semaine prochaine, le président de la République est pleinement président quand il rencontre ses homologues à la fois en Russie et en Ukraine. Et je pense que c'est plus important pour l'avenir du pays, l'avenir de l'Union européenne aussi, qu'il soit dans ses fonctions présidentielles avant tout aujourd'hui.
Aurore Berger sur France Info. Le cyclone tropical Batsirai s'est abattu sur la côte est de Madagascar hier soir avec des rafales à 225 km/h. Le cyclone a progressivement perdu de sa puissance, mais sur cette île de Madagascar, parmi les pays les plus pauvres du monde, eh bien les dégâts sont importants et généralisés. Sur place, à Antananarivo, Sarah Teto.
Sur la côte est, dans les zones où le cyclone a atterri hier en début de soirée, les dégâts matériels sont considérables. À Manonzar, 80 à 90% des habitations et bâtiments ont été détruits. Au Bureau national de gestion des risques et catastrophes à Antananarivo, le déploiement des secours et la distribution de vivres s'organisent. Le colonel Fall coordonne les opérations.
Beaucoup d'informations sont encore en train d'être remontées. Elles seront amenées, bien évidemment, à évoluer considérablement dans les heures, dans les jours à venir. On lance une vigilance importante concernant les crues des grands fleuves, que ce soit de l'ouest ou de l'est.
Si le risque d'inondation inquiète les autorités, l'état des routes des localités dévastées reste à l'heure actuelle l'un des enjeux majeurs pour les secours. Vincent Dallono est le directeur programme chez Handicap International.
L'un des gros problèmes aujourd'hui sur la zone qui a été principalement impactée, c'est que certains villages sont atteignables uniquement à 2 jours de marche et donc très difficile de connaître les dégâts qu'il y a pu avoir là-bas, surtout avec un manque de communication criant dans ces zones. Et maintenant, une fois qu'on aura ces besoins-là, la question sera quid de l'acheminement de l'aide.
Batsirai poursuit sa trajectoire vers l'ouest. Il devrait quitter Madagascar en début de soirée pour sortir dans le canal du Mozambique. À Antananarivo, Sarah Teto pour France Inter.
L'avertissement est lancé par les services de renseignement américains. La Russie prépare une invasion de grande ampleur. Le renseignement américain estime que Moscou accentue ses préparatifs et le Congrès américain et les partenaires européens des États-Unis ont été informés par les responsables des services secrets. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Frédéric.
Le renseignement américain indique que Moscou peut renverser l'Ukraine en 48 heures.
Oui, une capitale qui tombe en moins de 2 jours, jusqu'à 50 000 civils tués, l'Europe en proie à une crise des réfugiés.
tableau particulièrement inquiétant, alarmiste, diront certains, dressé par le renseignement américain. Selon ces informations, Vladimir Poutine se donne les moyens de toutes les hypothèses, depuis l'invasion partielle de l'enclave séparatiste du Donbass jusqu'à l'invasion totale de l'Ukraine. Missiles balistiques, pièces d'artillerie, véhicules blindés, la Russie aurait déjà déployé 70% des moyens nécessaires à une invasion à grande échelle, y compris des unités médicales et même de maintien de l'ordre en vue d'une occupation. Forte de 150 000 hommes, elle serait prête à agir dès la mi-février, encerclant Kiev et renversant le président Zelensky en 48 heures, provoquant la mort de 25 à 50 000 civils et l'afflux en Europe de 1 à 5 millions de réfugiés. Scénario immédiatement démenti côté russe. Le président ukrainien lui-même tempère depuis des semaines les risques d'invasion à grande échelle et la presse américaine relève l'existence d'une campagne concertée de Washington visant à renforcer la pression internationale sur la Russie.
Louise Baudet, merci. Les répercussions de l'affaire Orpea se poursuivent et l'onde de choc s'est propagée, notamment en Belgique, où les contrôles se multiplient dans les maisons de retraite du groupe Orpea. On l'a appris hier, deux gérants de maisons de retraite ont ainsi été arrêtés en Flandre. Ces deux interpellations viennent éclairer d'une lumière encore un peu plus crue le triste constat de la maltraitance des personnes âgées en Belgique. Sur place à Bruxelles, les précisions, Jean-Jacques Herry.
Les deux résidences concernées, situées à Gramont en Flandre, sont voisines. Elles étaient habilitées à accueillir des seniors autonomes. Mais problème, jeudi dernier, lorsque la police est intervenue sur les lieux, elle a constaté qu'au moins 17 occupants étaient en situation de dépendance. Pire, l'un des deux établissements avait perdu son agrément au mois de juin dernier. En manque de soins, les résidents ont été transférés vers des hôpitaux de la région. Depuis quelques jours, de tels contrôles se multiplient dans toute la Belgique. Ici aussi, le groupe Orpea, qui gère 80 établissements, est particulièrement surveillé. En Flandre, deux résidences ont ainsi été placées sous surveillance renforcée. Et en Wallonie, 12 des 18 infrastructures du groupe ont été inspectées, l'une d'entre elles faisant l'objet d'un avis très préoccupant selon les autorités. En parallèle, la presse se fait l'écho de nombreux témoignages. Enfants de résidents ou professionnels de la santé, tous décrivent un manque de soins chroniques et un impératif économique qui prévaut souvent sur la santé des résidents. Bruxelles, Jean-Jacques Herry, France Inter.
L'autre rendez-vous sportif du jour après le ski de bosse à Pékin et Perrine Laffont en route, peut-être on l'espère, pour une seconde médaille olympique, c'est le tournoi des Six Nations pour l'équipe de France de rugby. Les Bleus lancent leur tournoi en recevant l'Italie à 16h au Stade de France. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Frédéric.
Et l'équipe de France, c'est qu'il y a beaucoup d'ambition, veut enfin gagner un titre cette année et l'équipe d'Italie, pour débuter, est largement à sa portée.
Oui, normalement, hein, sans faire offense aux Italiens, une défaite des Bleus tout à l'heure paraît plus qu'improbable. La squadra azzurra, rendez-vous compte, n'a plus gagné le moindre match dans le tournoi depuis 2015, enchaînant même 32 défaites d'affilée. Mais pour son entrée dans la compétition, le 15 de France ferait bien tout de même de s'imposer avec une différence de points importante, déjà pour marquer les esprits et répondre aux Irlandais, leurs prochains adversaires, qui ont été vraiment extrêmement impressionnants hier face au Pays de Galles. Ensuite, il faut gagner largement, et bien pour éviter la même déconvenue qu'il y a deux ans où les hommes de Fabien Galthié avaient fini à la deuxième place, battus pour une moins bonne différence de points par rapport à l'Angleterre. Autre intérêt du match, et non des moindres, c'est la prestation des Toulousains qui va être surveillée, en particulier celle du duo Dupont-Tamac, tout juste de retour après avoir eu le Covid et qui ne sont pas apparus vraiment en grande forme le week-end dernier avec Toulouse. Le Covid qui reste d'ailleurs une menace pour les Bleus. On le sait, le sélectionneur Fabien Galthié, testé positif cette semaine, livrera ses consignes, non pas comme d'habitude du haut d'une tribune, mais par téléphone depuis sa chambre d'hôtel à Chantilly.
Fanny Lechevestrier, France-Italie, coup d'envoi à 16h. C'est un sujet très sérieux pour la Fédération française de pétanque, qui a la volonté de se professionnaliser. Des contrôles d'alcoolémie ont donc lieu pendant les compétitions et le comité départemental de pétanque du Doubs vient de mettre en place des tests d'alcoolémie dans toutes les compétitions du département. Et si l'alcool a longtemps fait partie du folklore dans le monde de la pétanque, l'objectif aujourd'hui est de réduire les débordements pendant les compétitions. Cédric Hermel.
C'en est trop pour Patrick Liégeard.
Ce genre de civilité, maintenant, il y en a assez.
Le président de la pétanque, selon Courtoise, a entendu des insultes, vu parfois des coups sur le bord du terrain.
D'avoir gagné et tout, et puis ils étaient un peu euphoriques et tout. Et puis, bon, ils s'en sont pris un petit peu à l'arbitre. On n'est pas là pour se bagarrer avec les gens. Alors maintenant, il faudrait que ça s'arrête, quoi.
Alors, les tests d'alcoolémie en compétition, il dit oui, comme tous les présidents du district de Montbéliard. Il y en aura à toutes les compétitions pour les joueurs et les arbitres, même si cette annonce lui laisse un regret.
C'est qu'elle arrive seulement maintenant. Deux ans avant, c'était très bien. Quoi. C'était très bien, on n'aurait pas eu ces, ces incivilités.
Ces injures et ces coups laissent penser Christophe Simon, président du club de Rang, que cette situation fait fuir d'éventuels nouveaux licenciés.
Vous venez avec un gosse de 4-5 ans, voire une compétition. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites ?
Ce qui pose la question des buvettes, est-ce qu'il faut les maintenir ou pas ? Pour Romain Perriot, président de la Boule Herbatone, il ne faut surtout pas les supprimer des compétitions pour une raison.
Elle permet au club de gagner de l'argent pour financer des déplacements ou nous, je sais qu'à ITUP, ça nous permet de financer le déplacement de nos jeunes, donc elle est hyper importante pour nos compétitions. C'est un de nos seuls moyens de faire du bénéfice. Donc oui, la buvette est importante et même primordiale.
Le comité du Doubs veut aller vite puisque la Fédération française a toujours en tête de faire de la pétanque un sport olympique.
Cédric Hermel.